Totem, le club sang et or. Corentin Monnier, Jean-Charles Virlogieux.
Très bonne soirée avec nous, avec le club sang et or, qui est là pour vous accompagner durant une trentaine de minutes. On va revenir évidemment sur l'actualité du Rodez Aveyron Football sans Jean-Charles Virlogieux. Petite précision, il est parti en vacances. Ce soir, notre invité dans le club sang et or, c'est Bradley Danger, défenseur et capitaine de Rodez. Bonsoir Bradley.
Bonsoir.
Avant de parler de foot ensemble et de revenir sur le point du match nul obtenu ce samedi, comment ça va à titre personnel, Bradley ? Car dans un premier temps, toutes nos félicitations évidemment pour ce bel événement. Vous avez accueilli un nouveau membre dans votre famille fin d'année 2023. Les nuits sont courtes ?
Merci tout d'abord, c'est gentil. Et pas tant que ça parce qu'elle fait déjà ses nuits depuis presque un mois. Donc c'est cool.
La parentalité se passe bien ?
Ouais, très bien. C'est beaucoup d'amour. Un peu de fatigue, mais beaucoup d'amour.
C'est plus fatigant que le sport de haut niveau ?
Ouais, 100 fois.
Allez, maintenant, on va s'intéresser évidemment aux sportifs. On va revenir sur ce point du match nul 0-0 concédé samedi à Paul Lignon contre Dunkerque. Une première mi-temps plutôt tristouille, on va la qualifier ainsi, mais où on a senti Rodez concentré, qui n'a pas malheureusement réussi à trouver la faille. Est-ce que vous pouvez être d'accord avec ce constat ou est-ce que vous avez d'autres choses à apporter ?
Ouais, non, c'est ça. On a fait une première mi-temps, on va dire, appliquée, mais assez timide offensivement. On va dire qu'on a vraiment privilégié l'aspect défensif. On voulait pas prendre de but, etc. Mais ça a peut-être joué un peu sur notre rendement offensif.
Oui, il y a eu quelques occasions quand même, on va dire, dans cette première période, avec notamment deux grosses signées Serge-Philippe Royao. Il y a, souvenez-vous, au quart d'heure de jeu, cette occasion.
Avec corner frappé au premier poteau, c'est dégagé par Anziani. Deuxième chance pour Giovanni. C'est remisé pour Lorenzo Rajo. Second poteau, il y a une tête, il n'y a personne qui peut toucher ce ballon. Oh, gros cafouillage dans la surface de réparation. Oh, Serge-Philippe Royao qui roule, rate un peu le manquable dans cette surface de réparation. Il était dans les 5 mètres de Dunkerque. Et le ballon qui passe au-dessus.
Il y a moyen de faire mieux sur cette action où d'ailleurs vous êtes impliqué, c'est vous qui remisez au second poteau.
Je pense compliqué parce qu'il y a quand même un mec qui est collé à lui et devant la balle. Mais pour moi, c'est vraiment compliqué de bien la redresser. Après, c'est des situations un peu cafouillage, donc c'est compliqué de vraiment remettre la balle où il veut.
Les fameuses parties de billard, des fois ça tourne en sa faveur, des fois ça tourne pas en sa faveur.
Exactement.
Bon, en tout cas, des ballons dans le dos de la défense de Dunkerque, derrière Saint-Ganté et Lagaye qui ont failli être récompensés. Mais Kylian Corredor et Tahereh Carconte n'ont peut-être pas forcément bien géré et bien négocié leurs occasions. Ou alors, on va dire que l'arbitre Aurélien Petit n'a pas voulu mettre son sifflet à la bouche pour désigner le fameux point de pénalty. C'est d'ailleurs à la suite d'un déséquilibre que Tahereh Carconte, Titaille de son surnom, prend son premier carton jaune. Peut-être un peu sévère, on aura l'occasion d'aborder les relations avec les arbitres, avec vous, Bradley, dans quelques minutes. C'est ballon dans le dos, malgré l'absence de Andreas Ntondji. C'est la spéciale Rodez, finalement.
Mais on joue avec nos qualités, on va dire. On a des mecs devant qui sont capables de prendre la profondeur et bien. Et on a des mecs derrière ou au milieu qui sont capables de mettre de bons ballons. Donc, on s'appuie sur ça, mais pas que. Mais c'est sûr que c'est une de nos forces. Ouais,
ça fait partie des qualités et évidemment de l'effectif de Didier Santini. Rodez concentré, Rodez appliqué et Rodez qui prend pas de but en première mi-temps. Ça, c'est un petit exploit. Je ne sais pas si vous connaissez cette stat. Mais Rodez encaisse son premier but en moyenne à la 38e minute de jeu et a encaissé 22 buts depuis le début du championnat en première mi-temps. Seulement 14 en deuxième période. Est-ce qu'il y a des explications derrière ces chiffres-là ? Est-ce qu'on peut apporter des explications ?
Si on aurait vraiment les explications, je pense qu'on les aurait gommées depuis pas mal de temps. Après, on en cherche toutes les semaines aux entraînements pour plus en prendre. Mais je pense qu'il y a beaucoup de concentration là-dedans. Il y a beaucoup de coups de pied arrêtés, malheureusement. C'est en grande partie pour moi les deux choses qui font qu'on prend beaucoup de buts, on va dire.
La concentration, ça peut se travailler dès l'échauffement, dès le début du match, ou c'est quelque chose qui se travaille finalement au fil des saisons ? Au fil de l'expérience ?
Non, ça se travaille dans le vestiaire avant le match, ça se travaille à l'échauffement, ça se travaille 95 minutes, parce que si on n'est pas concentré 10 secondes, on peut prendre un but. Donc non, ça se travaille tout le temps. Mais c'est un truc qu'il faut qu'on travaille encore, parce que, je le répète, mais on est une équipe jeune et c'est un truc qu'il faut qu'on gomme pour retrouver des résultats plus positifs.
Pas trop d'occasions subies, en tout cas en première période, on en a parlé, jusqu'en deuxième période. On pensait même que Rodez allait pouvoir faire une deuxième mi-temps de bien meilleure mouture. Dans les vestiaires, à la mi-temps, c'était quoi le sentiment général, finalement, à ce 0-0 ?
Le sentiment, c'est que c'était bien, très bien, même défensivement. On était appliqué, mais au contraire, c'était qu'il fallait se lâcher, mettre de la folie, comme on a l'habitude de le faire à la maison, de mettre de la folie offensive, de mettre plus de courses, de plus courir vers l'avant. Et je pense qu'on était parti sur ça, Et même quand il y a eu le carton rouge, je pense que ça, on a vraiment fait de bonnes choses. Donc ça, c'est vraiment très positif.
On va reparler justement de ce carton rouge dans le Club 100 heures avec notre invité Bradley Danger. Côté Dunkerque, Anziani qui a touché la barre sur coup franc et qui a eu le pied chaud durant quelques minutes après ce coup franc, puisqu'il a eu une occasion ensuite avec une demi-volée finalement pas si dangereuse que ça. En tout, dans le match, il n'y a eu que 3 tirs cadrés, dont une frappe de Serge-Philippe Royao, celle de Lorenzo Rajo en deuxième période et une grosse occasion en fin de match pour Gaëtan Courté. Et entre-temps, il y a eu donc ce fameux carton rouge.
Avec un ballon donné pour Yacine, on est sur la droite de la pelouse du stade Polignon aux abords de la surface de réparation avec Yacine qui garde ce ballon en 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9 touches de balle là et malheureusement le ballon qui va être perdu pour Yacine, gros tac, oh Tahiri Carconte qui va être exclu, Tahiri Carconte qui va être exclu de cette rencontre après ce tacle justement sur Yacine, deuxième carton jaune reçu par Tahiri Carconte dès le début de la deuxième période avec monsieur Aurélien Petit qui est arrivé tout de suite pour lui signifier la sanction à Tahiri Carconte.
Dans son effort défensif, Tahiri Carconte qui fait un tacle d'attaquant, est-ce qu'on peut le qualifier comme ça?
Ouais, après on sait que Tahiri il est très généreux sur tout ce qui est effort défensif. Et voilà, après pour moi il touche la balle, après c'est peut-être un peu mal maîtrisé mais
c'est un peu sévère. Sur l'ensemble de son œuvre, les deux cartons, c'est sévère.
Ouais, pour moi c'est très sévère même mais voilà, c'est des décisions et il faut les accepter, mais c'est sûr que pour moi, c'est très sévère.
Tahiri qui évoquait justement un cas personnel que l'arbitre avait fait sur lui. Est-ce que selon vous, ça y ressemble un petit peu à l'image de ce qu'avait peut-être vécu Lucas Boades contre Laval, où il avait subi une faute non sifflée et ensuite coupable d'une faute qui entraîne la défaite de Rodez, où l'arbitre là lui avait dit « j'attendais de te le mettre » en parlant d'un éventuel carton jaune. Ça ressemble à des vengeances finalement, si on prend juste les termes tels qu'ils sont?
Ouais, moi je pense que ouais, parce que pour moi le premier carton jaune il est trop facilement donné. Un joueur a droit de contester, même si surtout au bout de la cinquième ou peut-être dixième minute, de donner un jaune sur la première contestation, je trouve ça très rapide. Surtout que juste après, sur la touche, il sanctionne Tahiri une faute alors que la touche est à peine remise en jeu et je lui dis qu'il ne peut pas se venger entre guillemets. Parce que Tahiri lui a parlé, mais bon...
Que dans le contexte, justement, il y a cette faute, sifflée par M. l'arbitre dans la surface de réparation contre Tahiri Carconte, et puis, il y a un autre duel où Rodez doit faire une remise en jeu via une touche, il met ses bras pour justement se protéger de l'adversaire, et là, il est coupable d'une faute, selon M. Aurélien Petit.
C'est ça, sauf que la touche est à peine faite, en fait. Donc, mais c'est comme ça, l'arbitre a voulu faire comprendre à Tahiri que c'était lui qui contrôlait le match, après... Ça peut se comprendre, mais bon, c'est un peu... Je trouve que c'est voilà, ça peut fausser un match de faire ça aussi rapidement. Mais voilà, c'est comme ça, c'est des décisions qu'il faut accepter et nous, il faut se concentrer sur nous.
En tout cas, c'est pénalisant pour Rodez, puisqu'on rappelle que ce carton rouge, il arrive à la 51e minute de jeu. Carton rouge, ça change quoi dans une équipe? Au-delà d'être à un de moins, évidemment, on évolue à 10 contre 11. Est-ce que ça change des repères? Est-ce que ça change des consignes quand on est sur le terrain?
Forcément... On est un de moins, donc c'est un peu plus compliqué de bien défendre. Il y a toujours un mec dans une zone qui va être en supériorité, donc c'est un peu plus compliqué, mais on l'a vu. Hein, on a été très généreux défensivement. On a, je trouve, mieux attaqué à 10 qu'à 11, donc c'est un peu paradoxal, mais c'est sûr que ça nous oblige à plus courir et à défendre un peu différemment.
Et est-ce que mentalement, justement, ça peut provoquer un déclic dans le sens où on est un de moins maintenant et il faut qu'on se projette quoi qu'il arrive?
Forcément, ça peut, mais ça peut aussi être le contraire. Il y a plusieurs cas, mais après, je trouve qu'on est une équipe vraiment à fort caractère qui sait réagir sur ce genre de choses. Quand moi, je prends mon carton rouge contre Pau, c'est Pau. Après, il reste que 5 minutes, mais on marque quand même à 10 contre 11. Donc, on est une équipe qui peut gérer ce genre de situation. Donc, voilà, à nous de continuer à savoir les gérer.
Bon, en tout cas, ce carton rouge de Tahiri Carconte, c'est le troisième de la saison après Lionel Lempassi et le vôtre. On vient d'en parler il y a quelques secondes. Ça va nous permettre d'ouvrir une page sur les relations entre les joueurs et les arbitres. Je sais que vous aimez bien discuter une fois sur le terrain, Bradley Danger. On en reparlera dans quelques instants, puisqu'on va dire que dans l'histoire récente du RAF, les décisions ne sont pas forcément vraiment en faveur du Rodez Aveyron Football. Mais on rappelle que beaucoup d'observateurs du football disent que ça se normalise sur une saison, qu'une équipe ne peut pas forcément être pénalisée par l'arbitrage. Est-ce que vous partagez ce constat ou est-ce que finalement vous n'êtes pas forcément d'accord et que l'arbitre a un réel impact tout au long de la saison sur une équipe?
Moi, je pense que l'arbitre a un réel impact sur une équipe, enfin sur une équipe en général. Ça peut être bien comme pas bien. Je trouve qu'on est, surtout ces derniers temps, depuis quelques temps, arbitré sévèrement, je vais dire. Voilà, c'est un truc que j'aimerais que ça change un peu, parce que je trouve qu'il y a des décisions un peu compliquées pour contre nous, mais bon, c'est comme ça. Après, je suis peut-être un peu, je sais pas, peut-être un peu fataliste ou j'en sais rien, mais...
Vous voyez la situation via le prisme de joueur du Roda Zaver en football, donc peut-être aussi un petit peu biaisé par ça.
Ouais, après, mais c'est pas que... Enfin, c'est pas que... C'est, je pense que même les supporters, même si bien sûr ils supportent le club, mais je trouve que voilà, il y a quand même quelques situations qui sont un peu compliquées contre nous et ou pas sifflées pour nous, donc c'est à nous de faire tourner les choses hein, aussi, hein, mais ça serait bien que voilà, il y ait des choses un peu plus... équitable par moment.
Bon, en tout cas, on a vu Rodez prendre presque plus de risques à 10 contre 11 qu'à 11 contre 11, notamment en vous projetant Bradley vers le but de Koné qui avait remplacé le portier de Dunkerque à partir de la 22e minute de jeu. Et on y arrive à cette tradition dans le club Saint Léor.
J'ai pas dit que t'étais un con, hein. J'ai dit que globalement, la question, elle est con.
Vous la connaissez évidemment, la fameuse question à la con. Ça change quoi de jouer à 10? Est-ce que c'est plus simple finalement quand on a évolué à 10 contre 11? Parce qu'il n'y a plus d'espace ou pas du tout?
Non, c'est pas plus simple. On préfère toujours jouer à 11, mais il y a des équipes qui y arrivent mieux que d'autres, et je trouve qu'on est dans ce cas-là, mais c'est toujours plus compliqué, quoi qu'il arrive. On court beaucoup plus, parce qu'il faut courir pour un joueur en moins. Il y a toujours un joueur en moins, forcément, qui va attaquer, moins attaquer, parce que souvent, malheureusement, c'est un offensif qui sort quand il y a un carton, pour garder la structure défensive, donc c'est toujours plus compliqué quoi qu'il arrive de jouer à 10, ça c'est sûr.
On va terminer cette analyse avec un constat fait par Didier Santini, votre coach, qui recherchait un patron en défense et qui disait ne pas encore l'avoir totalement trouvé. Pourtant, durant ce match, on vous a vu, vous notamment, sortir au devant des attaquants adverses pour ne pas les laisser en position de frappe ou ne pas leur laisser d'espoir en tout cas. Est-ce que ça, c'était pour montrer que s'il y avait bien un patron dans cette équipe, c'était vous?
Non, pas forcément. Je pense que j'ai toujours été... un mec qui aime les duels, sortir sur les mecs, ne pas les laisser tirer. Voilà, j'aime bien gagner des duels contre mon vis-à-vis, mon joueur enfin, le joueur que j'ai en face de moi. Donc ça a toujours été moi. Après, voilà, le patron, je pense que le coach veut dire aussi un mec qui parle beaucoup et même qui est capable de crier, de parler,
d'encourager
les mecs en place. Ouais. Et donc voilà, s'il pense qu'il en faut encore plus, il a peut-être raison.
Et vous pensez que vous l'avez dans les cordes, ça?
Ouais, je peux le faire. Après, je ne suis pas quelqu'un qui va tout le temps dire au mec « remets-toi bien, machin, reste... » Enfin, j'aime pas faire la police, en fait. C'est surtout ça, le truc, mais... S'il faut le faire plus souvent, je le ferai.
Bon, au moment où on se parle, en tout cas, en ce mardi soir, Rodez est 12e avec 32 points.
Totem, le club sang et or.
C'est à ce moment-là que nous nous intéressons aux relations entre les joueurs et les arbitres, avec une question plutôt simple pour débuter cette nouvelle partie dans le club Saint-Léor. Est-il possible d'échanger avec les arbitres quand on est un joueur de foot, Bradley?
Ouais, c'est possible. Malheureusement, je trouve que c'est malheureux. Après, que quand on est capitaine, les autres joueurs ne peuvent pas forcément échanger avec l'arbitre parce qu'ils ne veulent pas, et c'est les nouvelles règles. C'est que le capitaine, mais... Pour moi, je trouve qu'un joueur qui vient avec des intentions de discuter, qui n'est pas forcément très agressif, je vais dire, envers l'arbitre et qui ne lève pas les mains, et je pense qu'il devrait avoir, il pourrait avoir en fait quelques temps, enfin, par moment des explications. Mm-hmm. Pas tout le temps, bien sûr que ce n'est pas le rôle de l'arbitre de faire le...
Mettre un peu plus de pédagogie quand même dans la décision.
Ouais, je pense que ça serait bien. Après, c'est déjà compliqué d'être arbitre, je trouve, ça c'est sûr. Mais voilà, des fois, c'est de pouvoir parler avec les joueurs, de pouvoir... calmer les choses quand le joueur parle calmement, je pense que ça peut être quelque chose de bien. Après, c'est pas facile aussi d'être arbitre, je le conçois, mais un peu plus de pédagogie, comme vous l'avez dit, ça serait bien.
Vous êtes un grand parleur à l'image d'un certain Clément Després, vous aimez bien discuter avec les arbitres. Est-ce que ça vous arrive d'arriver avec des bons arguments et que l'arbitre vous dise peut-être que je me suis trompé?
Ouais, bien sûr, mais comme ce week-end, c'est pour ça que j'en veux pas forcément à l'arbitre, mais... Quand il siffle la deuxième faute sur Tahirik sur la touche, je lui dis que pour moi, il ne peut pas faire ça parce que sinon, il va sortir Tahirik de son match et que lui, va vouloir être dans la vengeance. Et il me dit qu'il s'excuse, qu'il a réagi à chaud et qu'il le fera plus. Donc ça m'est arrivé plein de fois de pouvoir discuter avec les arbitres.
Donc c'est quand même bien d'avoir des relations avec les arbitres, de pouvoir échanger malgré le fait que les points de vue sont pas forcément les mêmes.
Bien sûr, et de toute façon on a tous un point de vue différent. L'arbitre voit des choses, nous les joueurs on voit des choses et encore plus on va dire décuplé parce qu'on veut gagner, on est des compétiteurs. Donc ça serait que nous les joueurs il y aurait 6 pénaltys dans un match. Donc non mais c'est sûr que par moment moi j'aimerais bien pouvoir parler un peu plus calmement, même si nous les joueurs des fois on arrive peut-être un peu trop fort. Mais je pense que l'arbitre pourrait nous dire tranquille, on peut parler, mais doucement, et voilà, ça pourrait peut-être apaiser les choses.
La nécessité de dialogue, finalement, ça paraît évident sur le papier pour plusieurs points. La compréhension, l'explication des fautes, ça aussi, ça pourrait jouer en faveur des arbitres, pour garder du lien entre les acteurs d'une rencontre, mais aussi, et surtout pour garder le côté humain du sport. Bah, alors, on le sait, il n'y a pas un week-end de foot en France, en Ligue 1 ou en Ligue 2, où on ne parle pas de faits d'arbitrage, mais il n'y a pas un week-end non plus où on ne parle pas des événements ratés défensivement ou offensivement de la part de joueurs de football. Alors, pourquoi on retient finalement un peu plus les erreurs d'arbitrage que les erreurs des autres joueurs, selon vous, des autres acteurs d'une rencontre?
Parce que malheureusement, un arbitre, ça peut vraiment influer sur le cours d'un match. Je trouve que voilà, c'est un métier qui est très compliqué parce que ça peut faire gagner ou perdre un match à une équipe. Et quand un arbitre peut faire une grosse erreur, ça va direct être beaucoup plus regardé que le reste, malheureusement pour eux. Mais voilà, c'est le jeu qui veut ça aussi par moment, mais
c'est pour ça qu'il y a plus de tension autour du rôle de l'arbitre.
Mais après, peut-être que eux aussi veulent se protéger parce que voilà, pour pouvoir arbitrer, on va dire dans leur bulle et calmement et sereinement. Mais moi, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Après, c'est compliqué, mais on voudrait toujours plus parler, échanger, nous les joueurs, avec les arbitres, mais calmement. Ça,
donc
sûr.
De temps en temps, il y a de la communication. Est-ce que ça vous est arrivé d'être confronté à un mur en tant qu'arbitre?
Ouais, bien sûr. Oui, c'est déjà arrivé et plein de fois qu'un arbitre ne veut pas du tout de dialogue. Qu'ils ne veulent pas du tout parler avec les joueurs. Après, ça peut se comprendre aussi, mais bon, c'est, je le répète, c'est pour moi d'échanger, ça peut calmer beaucoup de choses.
Donc les discussions, on comprend bien que c'est bien, selon vous, mais des fois, on en a un peu parlé il y a quelques instants, on voit souvent des joueurs qui se rassemblent pour faire une forme de pression autour de l'arbitre, peut-être même avec des paroles un peu plus crues, sous le coup de l'effort, de l'énervement. Est-ce que ça peut arriver, finalement, de s'emporter avec des paroles un petit peu déplacées envers l'arbitre quand on est joueur de foot?
Bien sûr, j'en suis l'exemple il y a quelques semaines. Mais
on regrette dans ces cas-là?
On regrette, oui, parce que, par exemple, quand je le fais, moi, je pénalise l'équipe en prenant un rouge, mais ça devrait, comment dire, les arbitres aussi, je pense, après, c'est facile à dire, mais doivent nous aider, nous, parce qu'on est dans le jeu, on est à chaud, on est peut-être énervé, y a l'adrénaline du match, l'envie de gagner, donc c'est compliqué parfois de retenir ces émotions, c'est dur. Donc
le rôle d'un arbitre, ça serait plutôt d'être la parole d'un sage, d'être l'homme calme de la situation.
Pour moi, c'est évident. C'est quand il y a même des échauffourées entre joueurs, c'est l'arbitre qui doit par moment calmer les deux, même si souvent ils le font. Mais c'est le juste milieu à trouver pour pas que par exemple il y ait d'arbitres qui se vengent de certains joueurs et à contrario de certains joueurs s'énervent contre les arbitres un peu trop fort.
Bon, on a parlé de cette situation où des joueurs peuvent s'emporter un peu envers un arbitre. Est-ce que l'inverse existe? Est-ce que vous avez été témoin de l'inverse, d'un arbitre qui peut s'énerver d'une manière un peu trop véhémente sur un joueur?
Ouais, je l'ai déjà vu plein de fois, mais même contre moi-même. Mais après, c'est compréhensible aussi, parce que moi, le premier, des fois, je me trouve chiant.
C'est bien de l'avouer.
Non, mais c'est vrai. Mais après, je sais que c'est compliqué. Moi, je me mets des fois à la place des arbitres. Ça peut aussi être chiant d'avoir des joueurs... qui ont des caractères un peu chiants, un peu relous, à tout le temps essayer de parler, etc. Donc, mais c'est aussi leur rôle de pas être trop dans la provoque, enfin dans la réponse eux-mêmes. C'est aussi leur métier. Après, ça peut être compliqué des fois, donc ça peut se comprendre, mais ça devrait arriver le moins souvent possible.
L'objectif d'un joueur, c'est évidemment de gratter la moindre situation en sa faveur. Je suppose que c'est comme ça que vous le voyez. Et l'objectif d'un arbitre, c'est quand même de rester le plus droit et le plus correct possible.
C'est sûr. Je pense qu'un arbitre, lui, ce qu'il veut faire, c'est faire son match, faire le moins d'erreurs possible et que le match se déroule bien. Donc, de base, je pense que c'est ce qu'ils veulent tous. Après, malheureusement, des fois, on est humain et voilà, il y a des petits, problèmes, mais bon, si. C'est espérant que ça arrive le moins souvent, quoi.
Pour faire un parallèle bancal, et vous avez vite comprendre pourquoi je dis bancal, le rugby, c'est un sport collectif avec aussi un capitaine, mais on voit moins ce genre de scène où les joueurs s'attroupent autour de l'arbitre. Est-ce que c'est comparable, ces deux sports ?
Ça peut être comparable. Après, je pense que c'est surtout des consignes, moi qui aime vraiment bien le rugby, je pense que c'est des consignes aussi des arbitres envers les joueurs, que si un joueur vient directement trop autre que le capitaine, vient trop voir l'arbitre, je pense qu'il peut prendre un jaune et sortir 10 minutes. Enfin, je pense, hein, vu comment je vois les choses. Après, c'est aussi une mentalité différente. Mmh. Malheureusement ou pas malheureusement, mais les choses font que dans le rugby, c'est un sport qui est très, on va dire, discipliné, très carré. Nous, le foot, on est un peu plus extravagant, on va dire. Donc, c'est aussi deux mondes différents.
Dans le rugby, il y a la VAR, enfin une sorte de VAR, comme dans le football. Il y a également la sonorisation des arbitres. C'est des avancées pour justement l'amélioration du jeu. Est-ce que vous êtes favorable à tout ça ?
Ouais, moi j'aimerais bien que tous les arbitres soient entendus. Au moins, voilà, on verrait comment ça se passe pour tout le monde. Et ça, je pense que nous, les joueurs, on serait aussi entendus, parce que quand on est proche de l'arbitre, tout le monde entendrait. Donc moi, je suis pour ça, ouais.
Est-ce que, justement, ces outils-là, la VAR, la sonorisation des arbitres, c'est pour le respect des jeux, du jeu, des règles du foot, ou est-ce que, finalement, c'est une sorte de défausse en se disant, regardez, il n'y a pas que moi qui commets des mauvais comportements ?
Mais je pense que c'est les deux. Je pense que c'est pour faire voir aux gens que l'arbitre peut être dans la parole, dans la discussion, et pour faire voir aussi que voilà, il n'y a pas que l'arbitre qui peut faire des erreurs, ou qui peut être aussi, comment dire, un peu énervé ou dans ces situations-là par moment. Donc je pense que c'est pour défendre les deux parties.
Bon, en tout cas, voilà pour l'épisode concernant les relations entre les arbitres et les joueurs de foot avec notre invité Bradley Danger. C'est vrai que c'est super intéressant d'avoir l'avis d'un joueur sur ces situations. On aimerait bien aussi avoir l'avis des arbitres sur ces situations, mais malheureusement, ils ne s'expriment que très très peu dans les médias. En tout cas, on a l'avis de Bradley Danger concernant ces faits de jeu que l'on peut retrouver évidemment au cours d'un match. Dernière partie de ce club sans erreur, c'est l'adversaire, c'est Bastia qui évidemment se trouve sur le chemin du RAF.
Totem, le club sang et or.
Bastia qui, depuis le début de l'année civile 2024, alterne le bon et le moins bon. Victoire contre Angers, Ajaccio ou encore Quevilly. Défaite contre Caen et Valenciennes. Pas de demi-mesure dans leurs résultats. Une bête blessée, 15e, avec 29 points au compteur. Côté joueur, il y a eu un petit couac avec le joueur Dimitri Liénard qui est parti cet hiver à Sochaux. Le club qui, par contre, s'est positionné sur Mohamed Souboul, latéral gauche, jeune talent international U20 marocain. Mais il n'y a pas eu que lui en termes de recrues du côté du club corse. Il y a eu également l'infatigable le Gaëtan Charbonnier qui est désormais en Corse depuis cet hiver. Sacrée expérience pour le joueur passé par Saint-Etienne. 229 matchs disputés en Ligue 2, 83 buts à son compteur. Fasciné Conte est lui la révélation de ce début de saison avec un trio qui fonctionne plutôt pas mal depuis le début de l'année. Donc Alfarella, Bianchini ou encore Gaëtan Charbonnier. Le Sporting qui n'a pas pris un seul but depuis l'arrivée du duo intérimaire Michel Moretti, Lilian Lasland qui a remplacé Régis Brouard. Je ne sais pas si vous êtes au courant de tout ça, mais Régis Brouard a été démis de ses fonctions fin janvier. Et du coup, pour le duo qui assure l'intérim, il y a eu deux victoires contre Ajaccio et Quevilly récemment. Sur le parcours du RAF, il y a donc cette équipe qui est à 3 points derrière. Est-ce que là, c'est un match un peu charnière pour Rodez ?
Non, je ne pense pas que ça soit charnière, mais c'est un match compliqué en Corse. C'est une équipe qui va mieux depuis quelques temps, surtout avec leur... même si c'est des intérims, on va dire que c'est pour moi, ils finiront l'année, vu comment
oui,
ça marche.
C'est parti pour durer, en tout cas.
C'est ça. Donc, non, ça va être un match compliqué, âpre, mais comme tous les matchs de Ligue 2. Donc, c'est un match qu'il faut qu'on prenne par le bon bout, qu'on essaie de gagner pour vraiment se relancer sur cette deuxième partie de saison.
Rendez-vous à 19h, évidemment, pour le coup d'envoi de cette rencontre entre Bastia et Rodez, avec notamment Jean-François Tefo qui sera en direct de Corse pour nous faire vivre cette rencontre à vivre dans l'intégrale Saint-Héors. Bradley, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
On vous souhaite une bonne semaine d'entraînement et un bon match pour ce samedi.
Merci.
Totem, le club Saint-Héors.